Ce matin, je nous invite à méditer la question du courage. Avoir le courage et comment Dieu nous donne du courage. Surtout dans une société où, pour la plupart du temps, notre courage est sapé. En fait, l'automne dernier, j'ai commencé une série de prédications sur les grandes villes de l'Ancien Testament. On voit que ces grandes villes dans la Bible ressemblent drôlement à notre société. C'est parce que la nature humaine ne change pas. L'encouragement pour nous, c'est que comme Dieu était à l'œuvre dans l'histoire de ces grandes villes, Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. Il est à l'œuvre pour juger le mal qui se fait. Et surtout, il est à l'œuvre pour nous sauver, pour donner de l'espoir pour ceux qui, par la foi, la saisissent. Donc je vais parler du courage, avoir du courage dans une grande ville. Et nous allons visiter une des plus grandes villes dans la Bible. Nous allons visiter la capitale d'un des plus grands empires. Alors nous remontons dans le temps, jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et là, nous nous trouvons dans la ville de Suse. C'est la capitale de l'Empire perse. Et dans cette grande ville, nous trouvons deux Juifs. Un homme qui s'appelle Mardoché. Il est là avec sa cousine. Ce sont des exilés. En fait, ce sont des enfants d'exilés. Des Juifs qui avaient été emmenés en captivité plus de 100 ans auparavant. Et donc, Mardoché, l'homme et sa cousine, sont des enfants de ces exilés. Mardoché s'occupait de sa cousine, après le décès de ses parents. Elle est devenue femme de l'empereur. Elle est devenue reine. Elle s'appelle Esther, ou bien Hadassah, c'était son prénom premier. Et dans cette grande ville, soit on monte tout en haut, soit on tombe bien bas. Et Mardoché est tombé. Il avait refusé de se prosterner devant le premier ministre, qui s'appelait Aman. Aman était agacé, si agacé qu'il décidait d'appliquer une punition collective contre tous les Juifs. Aman voulait la destruction du peuple juif dans tout l'empire. Donc l'empereur a donc signé et diffusé un édit autorisant à une date précise, quelques mois plus tard, le massacre de tous les Juifs dans l'Empire. Si vous voulez, nous allons lire la suite dans le livre de Esther, chapitre 4. Le livre d'Esther, chapitre 4. Mardoché, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors, Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Hathach se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent que Haman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié en Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna que Esther se rende chez le roi pour lui demander sa grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché: « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, il trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Je m'arrête là. Nous allons voir ce matin comment Esther a eu le courage de faire ce qu'elle a fait. Et de là, comment nous, aujourd'hui, pouvons avoir un courage pareil. Surtout si nous sommes comme Esther l'était au début de l'histoire. Esther qui ne voulait pas aller voir l'empereur, et c'était quand même son mari. Il fallait à Esther du courage pour le faire. Et peut-être il nous faut aujourd'hui du courage. Nous trouvons dans ce que je viens de lire, ce que nous venons de lire, 3 mouvements. D'abord, il y avait la menace et la peur qui pèsent sur Esther, sur le peuple juif. Puis, il y avait sa prise de conscience qui donne à Esther du courage. Et enfin, il y avait les résolutions courageuses d'Esther. Donc voilà les 3 mouvements, les 3 étapes que nous allons parcourir ce matin. D'abord, la menace et la peur qui pèsent. Les Juifs dans l'Empire perse sont sous la menace de mort. Ils avaient été vendus pour 10 000 talents d'argent. Cela est évident, cela est extrêmement grave. Mais je voudrais attirer notre attention sur un mal dans cette société qui est plus profond, plus sournois. Je voudrais que nous voyions dans ce passage le mal qui est à l'origine de la peur d'Esther. Et c'est un mal qui existe dans notre société qui prend de l'ampleur. Je parle de la distance entre les gens. Une distance qui empêche la communication, qui empêche le contact. Et cette distance a pour résultat l'isolement de l'individu. Peut-être vous l'avez remarqué dans le passage. Mardoché est le cousin d'Esther. C'est lui qui s'occupait d'elle alors qu'elle était toute seule, sans parents. Esther devient reine, vit dans le palais. Eh bien, dès lors, quand Mardoché veut parler avec Esther, lui, il doit passer par un domestique. Et puis, Esther, si elle veut voir l'empereur qui est quand même son mari, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit attendre un appel de sa part. Vous voyez les distances entre les gens? Et le résultat, c'est l'isolement. Esther vit dans un palais, elle a tout. Mais elle vit dans l'insécurité et l'incertitude, elle vit sous la menace de mort. Esther est reine, mais elle a peur d'aller voir le roi. Esther, elle comprend tout ce qui se passe, elle comprend toutes les règles, elle calcule, elle peut tout calculer. Elle sait que c'est depuis 30 jours qu'elle n'a pas vu le roi. Mais quand même, elle ne peut pas agir. Et c'est ça, c'est comme ça dans notre société aujourd'hui. En Europe, on est parmi les plus riches, les plus sophistiqués de la planète, n'est-ce pas? Et quand même, l'individu vit dans l'isolement, dans l'insécurité. Un isolement, une insécurité créée par la société, par sa technologie, par ses contrats, par son administration, par ses immeubles. C'est pour cela qu'on a manifesté lundi ou mardi dernier, parce qu'on ne voulait pas d'insécurité dans le travail. Si vous connaissez la chanson d'Alain Souchon, Ultra Moderne Solitude, dans cette chanson, Alain Souchon parle pour les personnes qui, au milieu d'une grande ville, entourées d'une foule, des gens qui se mettent à pleurer parce qu'ils se sentent seuls. La chanson dit « Pourquoi ces rivières soudain sur les joues qui coulent ?» Dans la fourmilière, c'est l'ultra-moderne solitude. Nous sommes comme Esther. Et tout comme Esther qui ne savait pas quoi faire avec la nouvelle du massacre imminent de son peuple, nous sommes envahis par tellement de soucis quotidiens, tellement de soucis personnels. Par rapport à la famille, par rapport à la maison, à la sécurité sociale, par rapport à la technologie, nous sommes envahis par tellement de soucis. Notre esprit est brouillé, notre courage sapé. Et tout cela nous empêche de faire face au grand malheur qui est en train de nous détruire. Tous les soucis quotidiens nous empêchent de faire face aux vraies questions. La menace et la peur pèsent. Alors, il faut à Esther une prise de conscience qui lui permet de trouver le courage. Qui lui permet de trouver le courage d'adresser le problème, de franchir les distances, d'intercéder pour son peuple. Donc, Mardoché, d'une façon assez sévère, lui donne une leçon de courage pour qu'elle prenne de conscience. D'abord, Mardoché rappelle à Esther qu'elle n'est pas à part. Elle n'est pas différente des autres. Tous les Juifs sont dans la même situation difficile. Elle aussi. Esther ne peut pas se mettre à l'abri du malheur qui sévit sur eux tous. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Et ce n'est que la première partie de cette leçon de morale. Deuxièmement, Mardoché dit à Esther, verset 14, « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Et cette phrase, c'est le cœur de toute l'histoire. Cette phrase fait basculer tout dans la tête et dans le cœur d'Esther. Pour que Esther voie le sens pourquoi elle est reine. Regardons cette phrase de Mardoché de plus près. Mardoché demande à Esther de réfléchir un peu. Pourquoi est-elle reine? Est-ce que c'est parce que l'empereur cherche une nouvelle femme? Est-ce que c'est parce qu'Esther, elle est belle? Il faut chercher encore. Et ce que dit Mardoché ici, que je viens de lire, cette petite phrase nous pose une énigme. À première vue, cette phrase ne parle pas de Dieu. Et en fait, dans le livre d'Esther, on ne trouve pas une seule mention du nom de Dieu. Ce qui est un peu bizarre quand même pour un livre qui se trouve dans la Bible. Quand nous chantons et nous nous encourageons par des phrases, c'est quand même bizarre de trouver un livre où le nom de Dieu n'est pas mentionné. Mais dans ce que dit Mardoché ici et dans la trame de l'histoire d'Esther, on discerne quand même la conviction que c'est ni la volonté des hommes, ni le hasard qui dirige les choses, plutôt que c'est Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, de Moïse, de David, c'est ce Dieu qui dirige et qui veille sur son peuple. Ainsi, c'est Dieu en ce moment-ci, où son peuple est en danger d'extermination, c'est lui qui a élevé Esther à la place de reine, afin qu'elle parle au roi, afin qu'elle intercède auprès de lui pour son peuple. Voilà, Esther, pourquoi tu es reine. Tilt. Elle comprend. Elle comprend le sens de sa voix et ce qu'elle a à faire. Et c'est là où Esther trouve le courage. La leçon de Mardoché nous livre le secret du courage. Il y a trois ingrédients pour que nous, aujourd'hui, ayons du courage. Trois ingrédients. D'abord, l'humilité de la solidarité. L'humilité qui reconnaît qu'on n'est pas meilleur des autres dans le groupe. Parmi notre peuple, dans notre famille, dans la famille de l'Église, avec nos amis au travail, parmi les voisins, dans un groupe, on est tous pareils. Tous partagent la même situation et ensemble, on sombre ou ensemble, on s'en sort. L'humilité de la solidarité. Deuxième ingrédient du courage, la foi. La foi en Dieu. L'assurance que c'est Dieu qui dirige les choses d'après son intelligence, d'après sa bonté, d'après ses principes de justice et de vérité, d'après son amour. C'est Dieu qui dirige. Nous sommes les acteurs, mais le directeur, c'est Dieu. Troisième ingrédient, un engagement personnel. Une responsabilité, une prise de responsabilité personnelle. La résolution de faire ce que l'on a à faire. Pour le groupe et avec le groupe. Pour Dieu et avec Dieu. Et donc dans ce passage, nous lisons que c'est cela, le courage. Le courage, c'est l'humilité de la solidarité. Le courage, c'est la foi en Dieu. Et c'est un engagement personnel dans sa situation. C'est ça le courage, les trois ingrédients. Et les paroles de Mardochée nous rappellent aussi une leçon importante. Pour avoir le courage, il faut recevoir l'encouragement. Mardochée parle d'une façon assez sévère, mais c'est quand même un encouragement pour Esther, pour qu'elle agisse. Et dans une société qui sape notre courage, il est d'autant plus important de savoir encourager les uns les autres. Il est très important de savoir dire à son prochain qu'il n'est pas le seul à porter son fardeau, que Dieu est là pour l'aider et le diriger, et qu'enfin, il peut faire ce qu'il a, la personne peut faire ce qu'elle a à faire, puisque Dieu l'a mise là pour le faire. Tout à l'heure, avec le partage des témoignages, des versets bibliques, c'était pour nous encourager, nous tous, n'est-ce pas? Dans la lettre aux Romains, la lettre de Paul aux Romains, selon la version du Semeur, nous lisons que l'encouragement, c'est un service, un ministère. Paul dit que celui qui a reçu un ministère d'encouragement, qu'il encourage. Il est très important de savoir dire à quelqu'un, on est là avec toi, Dieu est là, alors vas-y, n'abandonne pas. Donc voilà Esther encouragée, et elle fait preuve de courage de deux façons. Quand elle décide d'agir, elle fait preuve de courage de deux façons. D'abord, face à une situation urgente, une situation dangereuse, quand même, Esther a le courage d'attendre et de se préparer. Avant d'aller voir le roi, Esther exige 3 jours de jeûne pour tous les juifs dans la ville, pour elle-même et pour son entourage. 3 jours de jeûne. Pourquoi? Quel est le sens de ce jeûne? Et ici, je voudrais alors faire une comparaison avec le prophète Daniel et le chef Néhémie. Comme Esther, Daniel et Néhémie étaient eux aussi exilés vers la même époque. Ils partageaient la même expérience. Et on voit que dans l'expérience aussi de Daniel et de Néhémie, nous lisons qu'ils ont jeûné eux aussi à un moment donné. Dans le livre de Daniel, le chapitre 9, nous lisons que lorsque Daniel se rendait compte que les 70 ans d'exil du peuple juif prophétisés par Dieu, quand ces 70 ans d'exil touchaient à leur fin, Daniel s'est mis à jeûner et à prier, demandant pardon à Dieu pour les péchés du peuple et demandant à Dieu le retour à Jérusalem. Néhémie vivait lui aussi à Suse, comme Esther, mais il est un peu après Esther. Et dans le livre de Néhémie, le premier chapitre, nous lisons que lorsque les personnes sont venues à Néhémie lui raconter comment les murailles de Jérusalem étaient toujours en ruine, en recevant cette nouvelle, Néhémie s'est mis à jeûner et à prier avant d'aller voir le roi lui demander des congés pour pouvoir visiter Jérusalem. Dans ces deux cas de Daniel et de Néhémie, nous voyons que le jeûne, c'est un geste d'humiliation. Daniel et Néhémie se rappelaient et assumaient la désolation de tout le peuple juif. Daniel, Esther, Néhémie vivaient tous dans la cour royale, c'était des personnages importants, ils vivaient bien. Mais par le jeûne, ils s'humiliaient et s'imprégnaient de la désolation de leur peuple. Nous pouvons nous rappeler la chanson d'exil que nous connaissons par qui se chante aussi dans comme un tube, le chant d'exil, le psaume 137. sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Et là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Et aussi pour Néhémie et pour Esther, le jeûne et la prière étaient aussi une préparation à une rencontre avec le roi. Parce qu'ils savaient que ce n'est pas à la légère qu'on s'approche du roi. Comme disait Esther, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Nous, chrétiens, sans doute, nous ne jeûnons pas et nous ne prions pas autant que nous devons. Mais ces exemples-là nous montrent ce que c'est le jeûne et la prière pour nous. D'abord, jeûner, c'est une façon de nous rappeler notre besoin fondamental de Dieu. Dans notre cuisine, il y a tout ce qu'il faut pour satisfaire l'estomac, pour satisfaire l'appétit. Mais Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, de temps en temps, fermons la porte de la cuisine et approchons-nous de Dieu. Dans notre salon, il y a la télévision, il y a peut-être l'Internet, et là, il y a tout ce qu'il faut pour gaver l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Et parfois, la télé reste allumée toute la journée. Mais Dieu dit, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais il vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors de temps en temps, éteignons la télé, éteignons l'Internet. Amen. Et approchons-nous de Dieu. Je continue. Le jeûne et la prière doivent être aussi une occasion pour nous de nous préparer pour une situation peut-être difficile. Je pense peut-être à un nouveau travail, une nouvelle entreprise, peut-être un déménagement, peut-être un événement familial qui demande de la préparation parce que c'est comme quand même compliqué. Ces événements compliqués, ces rencontres difficiles demandent de la préparation spirituelle. On doit se préparer dans la prière, sinon on va se planter dans l'événement. Tout à l'heure, les musiciens, vous avez répété. Et on voit le résultat. Les joueurs de foot aussi s'entraînent. Puisque c'est sur le terrain de l'entraînement qu'on gagne les matchs. Je lisais dans le journal que l'entraîneur de l'OM disait à son équipe, plus tu souffres à l'entraînement, moins tu souffres en match. Et c'est peut-être ça le principe du jeûne et de la prière, la préparation. À mon avis, le jeûne, ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas pour l'impressionner, pour que Dieu voie l'effort qu'on fait. Le jeûne, c'est pour moi, pour que je me rappelle mon besoin de Dieu, que je me prépare à affronter des situations ou des personnes difficiles avec la confiance en Dieu, afin que Dieu dirige l'affaire et que Dieu me dirige. Esther a le courage d'attendre, mais à un moment donné, elle a le courage de s'approcher du roi. Et là, vers la fin de la partie que nous avons lue, on remarque de nouveau la distance qui sépare Esther et son mari. Pour aller voir le roi, Esther se maquille, s'habille, elle se présente dans la cour. Et le roi, qui est sur son trône à l'intérieur de la maison, il la voit à travers la porte, lui fait signe qu'elle entre en tendant son sceptre d'or. Esther entre, elle doit traverser la salle pour toucher le bout du sceptre. C'est quand même un peu trop. Pour une femme et son mari, c'était quand même un peu inhumain. Est-ce que ce doit être si difficile pour une femme de parler avec son mari? Est-ce que c'est si difficile aujourd'hui de parler avec son mari? Là, je peux regarder ma femme pour voir si elle hoche la tête ou pas. Si c'est si difficile, ce n'est pas normal. Quel courage avait Esther? Quel effort a-t-elle fait pour franchir cette inhumanité? Pour établir une relation plus humaine avec son mari? Et pour le rendre, lui, plus humain envers les Juifs qu'il condamne à mort? Il faut faire des efforts pour être plus humain, pour rendre la situation plus humaine. C'est ça ce que nous apprenons. Là où un comportement inhumain devient normal, il nous faut nous aussi du courage pour faire les gestes humains. Franchir les barrières, parler à ses voisins, à sa famille, peut-être à des collègues, porter de l'aide à quelqu'un, visiter les endroits interdits. On fait cela et les gens nous disent « Mais vous faites ça, c'est bien ce que vous faites, mais c'est quand même un peu normal. » Et voilà ma conclusion, mon encouragement pour ce matin. Dieu n'exige pas que nous soyons des super-héros. Dieu exige de nous que nous chrétiens soyons des gens de bien, des gens saints dans une société difficile. Et c'est tout. Esther n'a fait que s'approcher du roi et après Dieu l'a guidée. Et dans l'influence que nous pouvons exercer, même des gestes humains normaux peuvent être déjà beaucoup. Que Dieu nous donne le courage d'être tout simplement des gens de bien. Mais avant de terminer, je voudrais souligner une chose importante dans cette histoire. Le courage d'Esther en s'approchant du roi pour sauver son peuple et les Juifs, cet exemple nous montre aussi le Messie, le Christ, Jésus, lui qui est le sauveur du monde. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu, tellement nous sommes rebelles contre lui, ignorants, moqueurs de ses lois, moqueurs de sa personne. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Et à cause de cette corruption, nous sommes condamnés à mort. Mais sur la croix, Jésus se présentait devant Dieu pour intercéder en notre faveur. Jésus sur la croix subissait la punition des péchés de l'humanité. Il subissait la punition de nos péchés. Pour que Dieu nous pardonne et pour que nous puissions par la foi nous approcher de Dieu et vivre dans sa présence. C'est ce que dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens que nous lisons tellement beaucoup en ce moment. Paul disait, « Maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à vous qui étiez près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. » Éphésiens 2, les versets 13 et les versets 17 et 18. Voilà L'histoire d'Esther nous parle de notre besoin d'être sauvés de la mort et de nous-mêmes, tellement nous sommes devenus inhumains. Et l'exemple d'Esther nous parle du Sauveur, de Jésus, qui nous rend plus humains. J'ai parlé tout à l'heure du prophète Daniel, et si vous avez lu le livre Daniel, vous savez que Daniel avait des visions effarantes, où il voyait des monstres surgir et se battre. Et ces monstres représentaient des empires comme l'empire perse. Ces monstres nous montrent à quel point nos sociétés sont devenues monstrueuses. Mais à la fin de sa vision, Daniel voyait venir un homme à qui Dieu donnait l'autorité suprême, et cela pour l'éternité. Cet homme est Jésus-Christ. C'est Jésus qui fera de nous des humains. C'est Jésus qui fera de nous de nouveau des humains. Et c'est lui, par la puissance de son esprit qui habite en nous, qui mettons la foi en lui, c'est Jésus qui nous donne le courage qu'avait Esther. Amen. Amen.